Radio Okapi.
Réouverture du port d'Ilebo Kasai après plus d'un an de fermeture. Le premier train est arrivé la semaine dernière. Cette fermeture était due au déraillement répété sur la voie ferrée et l'incendie qui avait endommagé les installations portuaires. Intensification des opérations de traque des miliciens de la Convention pour la Révolution Populaire CRP de Thomas Lubanga par la FRDC. Ces combattants sont très actifs vers Nyamamba, à la plaine du lac Albert, dans le territoire de Djougou. L'armée dit avoir largué hier dimanche des bombes vers les positions de ce groupe armé en réponse à une attaque de cette milice dans la région. L'invité de ce journal, ce docteur Placide Ngango Kabuya, il est le médecin-chef de la zone de santé de Pinga au Nord Kivu. Il va parler de la situation sanitaire dans la zone de santé de Pinga, dépourvue d'équipement et enclavée à la suite de l'insécurité et au mauvais état de la route. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. Au micro, Noéla Luzitu Kabambi. Au Kasai, le port d'Ilebo a repris du service avec l'arrivée du premier train la semaine dernière. Les activités dans ces lieux stratégiques étaient à l'arrêt depuis plus d'une année suite au déraillement répété sur la voie ferrée et l'incendie qui avait endommagé les installations portuaires. Le tronçon entre Lukonga et Benaleka, remis en état, a tout de même permis au train de rouler, même si la problématique de la réhabilitation de la voie ferroviaire en général demeure encore, note la société civile locale. François Kadima nous en parle.
Le port d'Ilebo est un point stratégique en amont de la rivière Kasai. Situé au centre du pays et géré par la SNCC, le port d'Ilebo facilite la liaison ferroviaire pour le transport de marchandises vers plusieurs régions. Il relie Kinshasa à Lubumbashi par voie fluviale et ferroviaire, facilitant ainsi l'acheminement de marchandises vers le centre et le sud du pays. La voie ferrée avait été affectée par l'érosion au niveau de Benaleka, stoppant ainsi le trafic en dehors de l'incendie qui avait touché les installations de la SNCC à Ilebo. Après les travaux effectués, les activités ont repris à la satisfaction de tous. Mais les problèmes de la réhabilitation de la voie ferrée en état de délabrement demeurent, souligne Hubert Ngulandjoko de l'OCDH.
Ce port représente un caractère économique des grandes, on veut dire, au Kasai et au pays. OCDH déplore cependant l'état de délabrement avancé de la voie ferrée, tronçon Kananga-Ilebo. Demande à ce que les autorités puissent s'investir pour la réhabilitation de cette voie ferrée pour permettre un trafic sans inquiétude.
Signalons que le port d'Ilebo est parmi les principaux ports du pays, comme celui de Kisangani, Kindu, Mbandaka, Kinshasa et d'autres. De Kananga, François Kadima, Radio Okapi.
À Kinshasa, Jean Bamanisa Saidi, promoteur d'Expo Béton, publie une tribune intitulée « Kinshasa, capitale des travaux éternels ». On refait donc en avance, s'interroge Bamanisa sur la problématique du délabrement de la voirie avec des embouteillages monstres à Kinshasa et ses causes, dont le manque de transparence dans la passation des marchés publics selon lui. Selon cet ancien gouverneur de province, dans la capitale congolaise, on ne résout pas les problèmes, on les réactive. Les détails avec Jeff Ngoy.
Prenez une route, écrit cet homme d'affaires et politique, elle est défoncée. C'est normal, elle a été inaugurée il y a 6 mois. On l'a posée 5 caniveaux sur des nappes phréatiques avec un bitume aussi épais qu'un serment politique. Puis sont venues les pluies, les embouteillages, les camions surchargés et surtout l'oubli de toute logique urbanistique. Avec une chaîne de sous-traitance bien huilée, où chaque trou est un contrat, chaque coulée de béton est un budget, chaque effondrement un nouveau plan d'urgence. Rien à résoudre à Kinshasa si ce n'est qu'injecter des milliards dans l'asphalte, comme un malade chronique dans des calmants, en évitant soigneusement l'examen clinique. Les causes profondes sont entre autres l'urbanisation sauvage, l'absence de drainage, la corruption systémique et une administration qui confond gestion avec improvisation. Une ville qui transforme ses problèmes en budget, ses fissures en opportunités et ses chantiers en casse-misère. À ce rythme-là, dit-il, la capitale n'a pas besoin de nouveaux projets. Elle a besoin de mémoire, de rigueur ou d'un fou rire général.
En Ituri, les FARDC ont intensifié les opérations de traque des miliciens de la Convention pour la Révolution Populaire, CRP, de Thomas Lubanga, très actif vers Nyamamba, à la plaine du lac Albert, dans le territoire de Djougou. L'armée dit avoir largué hier dimanche des bombes vers les positions de ce groupe armé en réponse à une attaque de cette milice dans la région. Le porte-parole des FARDC en Ituri affirme que certains miliciens ont été neutralisés et plusieurs armes et munitions récupérées. Selon la société civile locale, les habitants des différents camps de pêche où la menace de cette milice est permanente vivent désormais dans une certaine psychose. Isaac Rémo.
L'insécurité monte d'un cran dans les localités Lakisra, notamment Nyamamba, Café et Datoulé, où des attaques sporadiques et fréquentes de la milice RP sont signalées depuis environ un mois. Hier, ces assaillants ont attaqué une position des FARDC à Nyamamba. Ces militaires, appuyés par des hélicoptères de combat, ont riposté à l'argat des bombes sur des positions de cette milice. L'armée affirme avoir infligé de lourdes pertes à l'ennemi. Le lieutenant Gilles Ngongo précise que plusieurs milices ont été neutralisées, un lot d'armes et munitions récupérées sans en déterminer le nombre. Il ajoute que ces opérations se poursuivent pour démanteler ces groupes armés dont les hommes sont à débandade. Des détonations d'armes lourdes ont été attendues dimanche dans la soirée par la population centre commercial de Tchomia, à environ 60 km à l'est de Bounia. De nombreux habitants retournés récemment de l'Ouganda et d'autres localités congolaises vivent dans la psychose à cause de l'activisme de cette milice. Le gouvernement provincial lance un appel aux fils égarés de ces groupes armés à déposer les armes pour adhérer au processus de paix dans cette province. Bounia, Isaac Moyope, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, la terre a tremblé dans la soirée d'hier dimanche. Un séisme de magnitude moyenne, soit 4,5 sur l'échelle de Richter, et une profondeur de 10 km a été perçue par les habitants de la quasi-totalité de la ville de Goma. Ce séisme a été plus ressenti dans les villages de Kihihi, Katanda et dans le territoire de Rutshuru. Les secousses ont simultanément été ressenties aussi dans les régions de Sac et territoire de Masisi, voire dans le Grand Nord, notamment à Beni et Butembo, rapportent des témoins. Pas de dégâts humains ou matériels enregistrés. Par ailleurs, les deux volcans, Nyiragongo et Nyamulagira, n'ont montré aucune réaction ni de fractures ouvertes vers les zones habitées de Goma et Sake, renseignent nos sources. Au Sud Kivu, les survivants de la catastrophe du 4 mai 2023 à Calais mènent une vie pénible 2 ans après la survenue de ce désastre qui a entraîné près de 5255 disparus, dont 583 corps seulement ont été retrouvés et enterrés à Bouchouchou et Nyamukubi. Les rescapés ont besoin aujourd'hui plus que jamais d'une assistance en abri étant donné que toute leur maison avait été rasée. Rachel Kessé.
Les sites aménagés immédiatement après la catastrophe n'ont pas pu contenir toutes les familles victimes. La Croix-Rouge et la Fondation Denise Nyakero avaient apprêté 2 sites respectivement à Mouchonezo et Loako. Quelques familles y ont été relocalisées, mais plusieurs autres sont restées autour de Bouchouchou et Nyamukubi. Un autre groupe est allé s'installer dans une concession privée à Katachola. Le gouvernement provincial et national ainsi que les organisations humanitaires s'y sont mobilisés pour la circonstance, mais les dégâts étaient si énormes à tel point que les besoins demeurent encore entiers 2 ans plus tard. Les sinistrés nécessitent des abris, des installations sanitaires, l'eau et un accompagnement en agriculture, pêche et élevage, car ce sont là les principales activités exercées dans ces milieux dans les territoires de Kalehe. Certaines familles ont disparu totalement suite aux précipitations provoquées par les pluies diluviennes du 4 mai 2023. Les rivières avaient dévié leur lit naturel et se sont déversées dans des villages, emportant des maisons, du bétail et des produits champêtres jusqu'au lac.
Parlons santé au Kasaï oriental. La campagne de réparation gratuite des fentes labiopalatines se poursuit normalement à la clinique universitaire de l'université officielle de Mbujimayi. Plus de 40 personnes, dont plusieurs enfants venus des territoires du Kasaï oriental et de la province de Lomami, ont été opérés avec succès depuis jeudi dernier. Cette campagne est organisée par l'université officielle de Mbujimayi en collaboration avec l'ONG canadienne Smile Train. Depuis Mbujimayi, Esther Ndalafina.
La fente labiopalatine, autrefois appelée bec de lièvre, est une malformation du visage depuis la naissance et qui consiste en une ouverture d'un seul côté de la lèvre, les deux côtés ou au centre. D'après Dr Luc Malemo de l'ONG HELP, plus de 40 personnes, dont les enfants, ont subi la chirurgie pour la réparation gratuite des fentes labiopalatines à la clinique universitaire. Dr Luc Malemo affirme que la réparation gratuite devient une activité régulière au niveau de la province du Kasaï oriental.
Nous voulons que les malades viennent, qu'on les soigne régulièrement. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que nous avons aussi formé les chirurgiens ici. Les malades qui viendront après mon départ ne seront pas dessus. L'équipe locale est là pour les prendre en charge.
Les malades sont totalement pris en charge. Ils reçoivent un kit alimentaire. Leur transport aller-retour est également assuré par l'ONG canadienne. Mukuna Matungu, le père d'un enfant d'une année et 7 mois, salue ce geste de générosité.
On a arrangé mon enfant gratuitement. Nous remercions les venants de Canada et les responsables de ce lieu. Je suis content.
Signalons que près de 20 personnes attendent encore la réparation de leur fente labiopalatine au cours de cette campagne de réparation gratuite qui prend fin ce mardi. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
À Kalemi, ce sont plus de 100 cas de choléra, dont 2 décès, qui sont enregistrés depuis le début de la semaine dernière dans les 2 zones de santé de Niemba et Kalemi. Se confiant jeudi dernier à la presse, le chef de bureau information et communication à la division provinciale de la santé du Tanganyika indique que les causes de cette flambée de choléra sont multiples. Il cite notamment la perturbation de la desserte en eau potable. Les propos du docteur Wilma Luabola, chef de bureau information et communication à la division provinciale de santé du Tanganyika sont sélectionnés par Paulin Munanga.
Notre province a connu un problème de rupture d'eau, d'approvisionnement donc d'eau de boisson pendant une période d'environ 7 jours. Il se fait que pour nous c'est un facteur aggravant par rapport donc à l'épidémie de choléra. Notre province est en démo épidémique, surtout pour les 2 zones de santé qui se trouvent donc dans la ville ou le territoire de Kalemie et Niemba. Et donc nous sommes en démo épidémique pour dire que le choléra il est permanent, mais il y a des facteurs déclenchants ou des facteurs aggravants par rapport donc au choléra. Et entre autres c'est la rupture donc en eau potable, en eau de boisson, en des régies des eaux. Les gens donc s'approvisionnent soit à Lukuga, soit au lac Tanganyika, mais du coup, il n'y a pas d'éclosion par rapport donc à l'eau qu'ils sont en train d'utiliser. Suite à ce facteur, nous avons eu une flambée des cas de choléra et cela a commencé depuis le 29 avril de ce mois. Donc à partir de lundi, nous avons eu beaucoup de nouveaux cas. On est arrivé à 79 nouveaux cas juste pour une journée. Ça c'est donc le lundi. Et le mardi, on a eu 39 cas. Aujourd'hui, que nous venons donc de tenir la réunion, nous sommes à 18 cas depuis le matin.
Pendant ce temps en Ituri, on parle de la résurgence de l'épidémie de peste dans la zone des santé de Réti, dans le territoire de Djougou. Dans son rapport hebdomadaire rendu public hier dimanche, la coordination provinciale de la protection civile, qui cite les sources médicales, affirme qu'une 20aine de cas positifs ont été enregistrés jusqu'à la date du 25 avril dernier. Pour tenter de limiter la propagation de la peste, la coordination provinciale de la protection civile recommande à la population de respecter les mesures d'hygiène nécessaires et d'éviter de manipuler les corps des personnes malades. Le point avec Jean-Claude Loki-Dillet.
Cette maladie refait surface avec le retour de la saison pluvieuse, affirme le responsable à Ituri de la coordination provinciale de la protection civile, une structure de l'État. Parmi la 20aine de cas notifiés, 23 souffrent de la peste bubonique et 2 de la peste pulmonaire, tout avec crachat, teinté de sang, forte douleur thoracique, difficultés respiratoires et une forte fièvre accompagnée de céphalées sont là les symptômes observés chez les malades, indique le responsable de ce service qui s'appuie sur le rapport de la zone de santé concernée. Elles encouragent la population de se faire dépister le plus tôt possible dès l'apparition des premiers signes similaires à ceux de la peste et d'assainir l'environnement. La consommation des animaux, principalement le rat, agent vecteur principal de cette maladie, est interdite. Par ailleurs, tout le monde est appelé à ne pas manipuler les corps suspects des malades décédés de cette maladie. Aux voyageurs qui fréquentent cette région, d'observer strictement les mesures d'hygiène, de peur de ramener la maladie vers des milieux non encore affectés. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'ONU se prépare à une réorganisation majeure selon un mémo qui a récemment fuité et repris par RFI. Une des options prévoit notamment que les opérations du Programme alimentaire mondial PAM, de l'UNICEF, de l'Organisation mondiale de la santé OMS et du Haut Commissariat pour les réfugiés HCR soient fusionnées au sein d'une seule et même agence. Notez que l'administration Trump prévoit de supprimer toute sa contribution à l'ONU, représentant environ 25% du budget total de l'organisation. D'autre part, les Nations Unies ont de plus en plus de travail puisque le Conseil de sécurité multiplie les mandats. Et les effets de ces difficultés se font déjà sentir car les agences de l'ONU ont été obligées de prendre les devants. Le Bureau des affaires humanitaires OCHA, par exemple, a déjà annoncé couper 20% de ses effectifs. L'UNICEF prévoit de réduire son budget de 20%, tandis que l'Organisation internationale pour les migrations OIM s'attend à une baisse de 30% de son budget, ce qui affectera 6 000 emplois. Et puis une partie du siège de l'ONU va être déménagée à Nairobi au Kenya pour faire des économies.
L'invité.
La population de Pinga dans le territoire de Walikale au Nord Kivu, estimée à plus de 220 000 habitants, est exposée à des épidémies. C'est en tout cas la crainte du médecin chef de zone de santé de Pinga face à la situation sanitaire préoccupante dans cette zone de santé, dépourvue d'équipements et enclavée à la suite de l'insécurité et au mauvais état de la route. Conséquence, l'approvisionnement en médicaments n'est plus possible. Nous recevons comme invité Dr Placide Ngango Kabuya, médecin chef de zone de santé de Pinga. Il s'entretient avec Denise Loukesso.
Docteur Placide Ngango, bonjour.
Oui, bonjour madame la journaliste.
Quelle est la situation sanitaire dans votre zone de santé actuellement?
La situation sanitaire est tellement compliquée à la suite des avancées du M23 dans la zone de Pinga, ce qui a entraîné vraiment des déplacements de la population, ce qui a causé des problèmes du point de vue sanitaire. Donc, pour le moment, il y a carence en médicaments au niveau de Pinga Centre et même dans la périphérie.
Et quels sont les défis auxquels les fait face les personnels soignants là-bas?
Oui, surtout au niveau de Pinga Centre, il y a vraiment une carence en médicaments. Donc les personnels soignants sont butés à ces obstacles parce qu'il y a des malades qui arrivent dans les structures sanitaires, mais il manque les médicaments.
Quelles sont les pathologies fréquentes que vous enregistrez?
Pinga, c'est une zone endémique. Donc la pathologie la plus courante au niveau de Pinga, c'est le paludisme qui vient en premier lieu. Il y a les infections respiratoires, il y a aussi la diarrhée. Et ces derniers temps, comme il y a déplacement de la population, on observe aussi beaucoup de cas de rougeole dans la zone de santé, particulièrement dans l'axe Pinga qui regorge 13 aires de santé.
Pinga est une zone très enclavée. Comment se fait l'approvisionnement en médicaments, par exemple?
Actuellement, ça pose un sérieux problème parce que normalement, pour arriver à Pinga, on doit passer par des axes en provenance de Goma. Soit on passe par Mweso, via Mpeti, et vous arrivez à Pinga. Là, la route est totalement bloquée. Il n'y a pas la possibilité d'accéder à Pinga. L'unique voie d'accès, il faut passer par Nyabiondo et Masisi. Un état de délabrement de cette route, mais aussi il y a l'insécurité dans la route aux notes de pillage, et ce qui empêche même les partenaires à venir nous aider dans la zone de santé de Pinga liée à la situation sécuritaire et même à l'enclavement.
Et qu'en est-il de l'appui des humanitaires? Arrive-t-il à couvrir les besoins?
La zone de santé n'a pas vraiment de partenaire. Donc l'unique partenaire actuellement qui est au niveau de l'axe Pinga Centre, qu'on note seulement la présence de MEDER dans des aires de santé, précisément à Bukonde, mais aussi en Petit, là où l'aire de santé a été déplacée suite au mouvement de la population vers Misok. Ce sont là les deux aires de santé qui sont appuyées. Malheureusement, ça fait plus de 4 mois que les partenaires ne parviennent même pas à atteindre Pinga suite à l'insécurité et même l'approvisionnement. Ça fait au moins plus de 4 mois que les partenaires n'approvisionnent pas les deux structures suite aussi à l'insécurité dans cette région et même en cours des routes.
Et face à ces défis, qu'est-ce que vous craignez?
Bon, ce qu'on est en train de craindre, notamment la survenue des épidémies, parce qu'actuellement, il y a déjà la rougeole qui est en train de s'installer dans la zone. Et comme il n'y a pas de médicaments, cela déjà entraîne quelques décès qui sont enregistrés dans la communauté, même dans différentes structures. Au niveau de l'hôpital, il y a des décès liés à ça suite au manque de médicaments. Donc la gestion sera vraiment très compliquée. Tout ça, c'est par manque d'équipement et par manque de médicaments. Bon, la recommandation, c'est permettre d'abord l'accessibilité. On plaide aussi pour la sécurité en cours de route. Ce sont là les défis qui font à ce que les humanitaires ne puissent même pas arriver dans la région. Aux partenaires aussi de venir aider la population en souffrance dans cette région.
Voilà, docteur Placide Ngango, je rappelle que vous êtes le médecin-chef des zones de Pinga dans le Walikale. Radio Kapi vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame la journaliste.
Et c'est la fin de ce journal mis en onde par Debs et Vika, sous la coordination de Élisée Chikota, un journal présenté par Noëlla Luzito Kabambi, le tout supervisé par Martin Sebujangwe.